Silcast présente la revue de presse, thème du jour, économie et l'opportunité, avec Alex et Victor. Bonne écoute.
Bon, on a un fil rouge évident aujourd'hui, la guerre en Iran qui rebat toutes les cartes économiques. Et franchement, plus je regarde les chiffres, plus c'est cynique. Le Grand Continent publie ce matin un papier de Guillaume Duval sur la Russie, et au même moment, l'humanité tape sur Total Energies. Même histoire. Deux continents.
Vas-y, déroule le tableau, parce que je trouve que les deux articles ne disent pas tout à fait la même chose.
Alors, côté russe, le baril Ural est passé d'environ 60 dollars fin février à plus de 100 en avril. Logiquement, Moscou devrait nager dans le cash. Sauf que selon les données du CREA, les volumes exportés ont chuté. 1 million de tonnes en mars, 750 000 fin avril, soit moins qu'avant la guerre. La raison ? 21 frappes ukrainiennes en avril sur les terminaux pétroliers, raffinerie, oléoduc.
Donc au bilan, les recettes russes augmentent quand même, de 340 à 430 millions d'euros par jour. Les Ukrainiens cassent les volumes, mais les prix compensent.
Exactement. Et pendant ce temps, autre papier du Grand Continent du 1er mai, la fortune cumulée des oligarques russes a bondi de 11% cette année, 696 milliards de dollars. Mordachov à 37 milliards, plus 30% en un an, porté par l'or. 14 nouveaux milliardaires. C'est ça que j'appelle une économie de guerre qui marche très bien pour une caste.
D'accord. Mais regarde ce qui est intéressant aussi. Trois oligarques sortent de la liste parce que l'État leur a confisqué leurs actifs. Domodedovo, Yujural Zoloto, le groupe KDV, le Kremlin trice et fidèle. Ce n'est pas juste les riches s'enrichissent, c'est une recomposition politique de la propriété.
Une purge avec un vernis légal, oui. Bon, et de notre côté de l'Europe, même mécanique, costume différent. Total Energy, bénéfice net plus 51% au premier trimestre grâce à la guerre. Et la réponse de Sébastien Lecornu dans la tribune dimanche, c'est de demander un plafonnement généreux à la pompe. Généreux. Le mot est savoureux.
Bon, mettons les options sur la table, parce que c'est là que ça se joue. Tu as trois approches. 1. Tu laisses faire le marché, plafond à 1,99 sur le sans-plomb comme Total Energies l'a annoncé, et tu pries. 2. Tu bloques les prix par la loi position de la gauche. 3. Tu taxes les super-profits et tu redistribues la proposition socialiste.
Toi, tu penches pour ?
La taxation des super-profits, clairement. Le blocage des prix, ça soulage les automobilistes immédiatement. Mais si la guerre dure, soit l'État compense la différence et c'est l'argent public qui paye, soit l'entreprise rogne ailleurs. Et historiquement, c'est les investissements et l'emploi qui trinquent. Le plafonnement généreux à la Lecornu, c'est de la communication. 1,89 le litre, ça reste très cher pour quelqu'un qui fait 40 km par jour pour aller bosser. Taxer et redistribuer ciblé. Parce que si tu prends l'ensemble des gens concernés, tu as d'un côté un actionnariat concentré qui encaisse 51% de bénéfices en plus sur un trimestre, et de l'autre, des millions de ménages, surtout périurbains, qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Récupérer une partie de la rente et la flécher vers les plus exposés, c'est ce qui bénéficie au plus grand nombre, et de loin.
Je note quand même que profiteur de guerre, l'expression que Roux de Bézieux trouve scandaleuse selon l'humanité, est descriptivement juste. On parle d'une rente qui tombe parce que des gens meurent à Hormuz. Ce n'est pas une opinion, c'est de la comptabilité.
Sur le fond, je suis d'accord, le mot décrit un fait. Après, le problème politique de l'expression, c'est qu'elle braque le débat sur la morale, plutôt que sur l'instrument fiscal. Et l'instrument fiscal, il existe. L'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne l'ont fait à des degrés divers en 2022-2023. Ce n'est pas une utopie.
Transition naturelle vers l'Australie, parce que Jim Chalmers dans Le Guardian joue exactement la partition inverse. Il refuse de prolonger la baisse de 26 cents sur la taxe carburant, il annonce un budget le plus responsable de sa carrière et il touche au negative gearing et à l'abattement sur les plus-values, ce que Labor avait promis de ne pas faire.
Et là, je trouve sa logique défendable, même si la promesse rompue est un vrai problème démocratique. Son argument, la guerre a turbo-compressé l'inflation, la Banque centrale est probablement partie pour une troisième hausse des taux. Si le budget rajoute du soutien généralisé, tu nourris l'inflation, et la hausse des taux qui suit fait plus mal aux ménages modestes que la baisse de la taxe carburant ne les aide.
Sauf que toucher au negative gearing, c'est s'attaquer à une niche fiscale des propriétaires bailleurs. Ça, c'est de la justice intergénérationnelle, comme il dit. Donc en fait, il fait ce que Lecornu refuse de faire, aller chercher l'argent là où il est.
Voilà. et c'est le contraste qui me frappe entre les deux capitales. Paris, on demande gentiment à Total d'être généreux. Canberra, on rompt une promesse électorale pour rééquilibrer la fiscalité du patrimoine. Sur l'efficacité pour le plus grand nombre, il n'y a pas photo.
Dernier sujet vite fait, parce qu'il s'inscrit dans le même paysage. Reporter, l'accord UE-Mercosur entré en vigueur le 1er mai sans vote sur le fond du Parlement européen. L'économiste Maxime Combes parle d'un passage en force démocratique. 90% des droits de douane qui sautent avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie.
Là, je suis plus partagé que toi. Je le sens venir. Sur la méthode, le contournement du vote parlementaire est un vrai problème, sans ambiguïté. Sur le fond économique, un accord commercial bien calibré peut bénéficier à beaucoup de monde des deux côtés. Le souci, c'est que celui-là n'est pas bien calibré. Les clauses environnementales sont faibles. Agriculteurs européens vont encaisser une concurrence sur des standards qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser eux-mêmes.
Et l'effet Amazonie. On signe un accord qui augmente mécaniquement la pression sur les surfaces agricoles brésiliennes au moment où on prétend faire de la transition écologique une priorité. C'est un cohérent point.
Sur ce point précis, je te suis. Si tu prends l'effet agrégé, climat compris, le bilan penche clairement du mauvais côté. Et passer outre le Parlement, ça veut dire qu'on n'a même pas eu le débat public qui aurait pu corriger le tir.
Bilan de la matinée. La guerre enrichit quelques-uns très vite, les États réagissent à des vitesses très différentes, et quand l'Europe veut faire passer un accord majeur, elle évite le vote. On vit une époque formidable.
Formidable, c'est le mot. On se retrouve demain pour la suite.